Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'est aux éditions Plomb. Un mois de guerre. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les scénarios sur la table? L'Iran est-il finalement invincible? Peut-il tenir ce régime? Où en est-il? Les Houthis en mer Rouge, le détroit d'Hormuz, les véritables décisions de Donald Trump ou d'Israël, la situation du Liban? Je voudrais d'abord comprendre avec vous, au bout d'un mois de guerre, où est l'avantage? Y en a-t-il un véritablement?
Non, il est toujours nulle part. Le régime iranien s'est bunkérisé et essaye de tenir le plus longtemps possible pour infliger le maximum de dommages à l'économie mondiale, pour faire plier Donald Trump. Et Donald Trump s'efforce de taper le plus possible sur l'Iran, en espérant que l'Iran va craquer et que donc que le premier qui va abandonner dans cette affaire, qui va dire pouce, a perdu d'une certaine manière. Les deux se livrant à une sorte de poker menteur, avec surtout l'élément qui me semble important aujourd'hui, c'est que plus personne n'accorde la moindre crédibilité aux déclarations de Donald Trump, qui changent en permanence.
Y compris parfois dans la même phrase, quasiment.
Voilà, exactement. Et autrefois, quand il disait « c'est fini », on voyait tout d'un coup le prix du pétrole qui baissait de 10%. Aujourd'hui, quoi qu'il dise, ça n'a plus aucune importance. Et ça, c'est extrêmement préoccupant pour lui, parce que la crédibilité du dirigeant de la plus grande puissance de la planète aujourd'hui est à peu près nulle, en dépit du fait qu'il est, son site s'appelle Truth Social, la vérité des réseaux sociaux, mais qu'on pourrait appeler aussi le mensonge des réseaux sociaux.
La question, au fond, c'est que ça veut dire qu'on est dans une sorte de guerre d'usure. Le premier qui lâche, le premier qui craque aura perdu. Le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump envisage d'arrêter presque d'un coup, tout d'un coup, sans qu'il n'y ait plus ni de but de guerre, ni d'objectif rempli, ni de mission qui serait plus ou moins accomplie. À tout moment, ça peut s'arrêter, un peu en cours de route. Est-ce que c'est possible ça et quelles seraient les conséquences?
Oui, il suffit qu'il dise « j'ai gagné ». Mais simplement, si les marchés disent le contraire et si les soldats continuent de mourir, ça ne sera pas le cas. Parce que on voit bien que la guerre s'étend, et j'attire votre attention sur le fait que la situation du Liban est chaque jour plus catastrophique. Avec cette décision incroyable que les autorités libanaises ont ordonné à l'ambassadeur iranien déclaré persona non grata de quitter le pays, le président du Parlement, Nabi Berri, chiite, a dit non, il reste et il est toujours là.
J'allais y venir, arrêtons-nous un instant là-dessus. On va prendre effectivement morceau par morceau, si je puis dire, la question des pays du Golfe. On a appris ce matin d'ailleurs qu'un navire koweïtien aurait été touché par l'Iran, ce qu'il se joue bien sûr dans le détroit d'Hormuz. Mais puisque vous évoquez le Liban, on a effectivement cet épisode qui cristallise au fond la situation du Liban. Le ministre des Affaires étrangères libanais, il y a une semaine, exigeait le départ de l'ambassadeur iranien du sol libanais, considérant qu'au fond, les Iraniens étaient ceux qui tiraient les ficelles oui. du Hezbollah. Sauf que cet ordre d'expulsion des autorités libanaises n'a pas été respecté. Il avait jusqu'à dimanche soir pour quitter le pays. Et l'ambassadeur iranien affirme qu'il ne quittera pas le pays. Et il s'appuie, en effet, non plus sur le gouvernement, mais sur le patron du Parlement voilà. libanais. Ça veut dire qu'au sein du Liban, il y a un bras de fer qui est en train de se jouer.
Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne suivent pas toute l'actualité libanaise
c'est
au jour le jour...
C'est pourquoi je voulais voilà, rappeler ces épisodes, parce que c'est vraiment une sorte de bras de fer qui s'est joué tout au long de la semaine.
Le président de la République est chrétien maronite. Le premier ministre, donc c'est le général Joseph Aoun. Le premier ministre, lui, est sunnite, musulman sunnite. Et le président du Parlement est musulman chiite. Et c'est donc ce troisième personnage de l'État, Nabih Berri, qui s'est opposé à ce que les institutions font, que la décision prise par le gouvernement soit mise en œuvre. Les ministres Hezbollah, il y en a deux, ne siègent plus. Mais tout ça, c'est la suite de quelque chose qui a beaucoup surpris, y compris beaucoup de Libanais, c'est qu'après la destruction du Hezbollah par Israël en septembre 2024, la fameuse affaire des beepers piégés, vous vous souvenez, puis la mort de Hassan Nasrallah, en réalité, depuis plusieurs mois, des centaines d'officiers iraniens des gardiens de la Révolution, des Pasdaran, sont entrés au Liban avec des vrais faux passeports, et ce sont eux qui ont rétabli la capacité de feu des chiites libanais, enfin avec surtout des officiers iraniens aujourd'hui, présents toujours aujourd'hui sur le territoire libanais. Et s'il y a eu des vrais faux passeports, ça veut dire qu'il y a une partie
ça
de l'administration, évidemment.
De la part d'une partie de l'administration,
voilà, c'est ça.
Libanaise.
Ce qui est un vrai problème, puisque ça veut dire que l'État libanais aujourd'hui est
Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire qu'il y a cet ordre d'expulsion de l'ambassadeur iranien
qui ne peut pas être respecté,
qui ne sera pas exécuté. Ça veut donc dire que désormais il y a eu un bras de fer et que ce bras de fer, au moment où on en se parle, il est gagné par le Hezbollah contre le reste des autorités libanaises.
Pour l'instant, mais et maintenant, il y a un autre acteur qui est présent sur le sol libanais, qui est Israël.
Évidemment.
Et donc l'armée israélienne arrive aujourd'hui jusqu'au fleuve Litani. Donc c'est 30 kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise. Il y a des incidents récurrents avec les forces de la FINUL, avec les Français, pas uniquement d'ailleurs. Il y a eu des soldats qui sont morts, c'est des gardiens de la paix qui sont morts. Il n'est pas impossible que Israël décide d'intervenir, par exemple pour forcer l'ambassadeur iranien à partir, fût-ce par une action offensive.
Ça cristallise aussi cette question-là. Est-ce que ça veut dire aussi que lorsqu'on entendait le premier ministre libanais il y a encore 8 jours dire qu'il voulait désarmer le Hezbollah, s'il n'est pas même capable de faire respecter son autorité sur le départ de l'ambassadeur, alors on se dit qu'il n'a pas les moyens de désarmer le Hezbollah.
Non seulement lui, mais que l'Occident qui le soutient est impuissant. Et c'est une provocation calculée, évidemment, du pouvoir iranien, qui veut montrer que il est irrésistible dans la région. C'est dans le jeu des signes du rapport de force, c'est ça. Et c'est le champ ouvert, évidemment, à l'option israélienne pour une intervention qui obligerait...
C'est-à-dire ça donnerait un prétexte,
bien
en
sûr,
quelque sorte, pour vous, à Israël, pour continuer. Que se passe-t-il dans le sud du Liban? Est-ce qu'on peut parler d'invasion d'Israël? Est-ce qu'on peut parler d'offensive? Cette zone tampon, est-ce que ça a vocation à devenir la prolongation de son territoire, ce qui serait évidemment en violation avec tout ce qui s'est fait jusqu'alors? Où est-ce qu'on en est?
Ça, c'est l'ambition de Monsieur Smotrich, donc l'un des plus les ministres colons les plus importants, qui dit qu'il faut annexer le sud Liban, le Litani doit être la frontière nord d'Israël. Dans les faits, aujourd'hui, l'armée israélienne est présente. La zone a été vidée de ses habitants, mais pas de ses combattants. Et il y a eu 4 soldats israéliens qui sont morts
ce matin
dans cette zone. Enfin, on a annoncé leur mort ce matin. Donc, les combats continuent. La FINUL est présente toujours à Narkoura, qui est la ville côtière libanaise, à la frontière libanaise, libano-israélienne. Mais pour l'instant, effectivement, c'est une zone qui est un peu un no man's land, avec en contrepartie zone, il y a surtout des chiites, il y a également des chrétiens, surtout des chiites, qui ont été poussés vers le nord par les ordres d'expulsion, ce qui fait que le Liban aujourd'hui est un pays dans lequel les tensions communautaires sont de plus en plus importantes, puisque vous avez des réfugiés qui sont massivement chiites, qui sont installés dans des zones qui sont massivement chrétiennes et sunnites, avec des tensions qui sont en train de monter. D'autant plus que chaque fois que des chiites sont réfugiés dans des appartements où il y a des populations mixtes, et que Israël soupçonne ceci d'être lié au Hezbollah,
ils peuvent être
ciblés. Il y a des frappes, ce qui veut dire que les frappes ne sont plus seulement en zone chiite, mais aujourd'hui dans un quartier comme Hazmiyeh, par exemple, qui est un quartier chrétien de Beyrouth, qui est la frontière, qui a été victime de très nombreuses frappes.
aussi, on commençait cet entretien en évoquant la difficulté à suivre les décisions de Donald Trump. Si Donald Trump décidait de cesser la guerre dans quelques jours, se disant qu'au fond il n'arrivera pas à débloquer le détroit d'Hormuz, une forme peut-être même d'impuissance qu'il maquillerait en victoire, est-ce que Israël désormais pourrait être tenté de continuer sans les Américains?
Alors, Israël peut toujours continuer sans les Américains, mais pas avec la même capacité, pas la même puissance. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu sur les marchés, principalement, et plus que sur le champ de bataille lui-même. C'est-à-dire, est-ce que il y a capacité à refaire fonctionner l'économie mondiale? Jour après jour, la situation au Moyen-Orient impacte la vie quotidienne du monde entier. On voit ici les grèves des camionneurs et des routiers, c'est vrai.
Le prix du gasoil qui n'a jamais été aussi élevé. Voilà. Hein, on est à 2,20 € le litre.
Absolument. Donc, bien sûr, on se plaint, des populations souffrent. C'est encore pire en Asie, par exemple, où les pêcheurs ne peuvent plus prendre la mer, où il va y avoir parce que c'est trop cher, et il n'y a pas les filets de sécurité que nous avons ici.
Gilles Kepel, vous parliez effectivement du reste de la région. Après le Koweït et les Émirats, on a appris que Bahreïn avait annoncé hier l'arrestation de personnes qui seraient liées au Hezbollah. Est-ce que ça veut dire que ces pays-là sont désormais, eux aussi, en quelque sorte en guerre, au moins avec les proches de l'Iran?
Oui, mais même avec l'Iran aujourd'hui. D'autant plus, le Bahreïn est un pays à majorité chiite. Le gouvernement est sunnite. Il y a eu d'ailleurs de nombreuses révoltes des chiites, dont beaucoup sont pro-iraniens. Donc, il est dans une situation de très grande fragilité. Mais vous savez, même les pays exportateurs de pétrole et les consommateurs, l'Égypte, par exemple, la Jordanie, sont aujourd'hui déjà en situation économique catastrophique. L'Égypte n'a plus quasiment de revenus du canal de Suez, qui sont beaucoup baissés parce que la mer Rouge est également en partie bloquée. Et les commerces égyptiens ont eu l'ordre de fermé à 9h du soir pour éviter qu'il ait de la lumière. En Jordanie, on a interdit la climatisation et le chauffage, l'usage des voitures publiques. Donc, si vous voulez, toute la région est en train de s'enfoncer dans un marasme. La question étant de savoir, est-ce que les populations concernées vont dire « c'est la faute des Iraniens » ou bien « c'est la faute des Américains et des Israéliens
qui ont fait la guerre ». De quel côté va retomber en quelque sorte la pièce, mais aussi le jeu diplomatique? Aujourd'hui, on entend par exemple Al-Sisi qui appelle à l'aide, en quelque sorte presque, Donald Trump. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, leur allié est davantage l'Amérique, effectivement, que les autres pays de la région?
Alors, ça dépend. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Égypte importait une grande partie, enfin, est productrice de gaz, mais importait tout le surplus d'Israël. Israël ne leur vend plus, parce qu'ils en ont besoin aussi. Et donc, la situation économique de l'Égypte, qui est structurellement déficitaire et catastrophique à cause de l'explosion démographique, aujourd'hui est de plus en plus grave. Et ça veut dire aussi que c'est, pour tous les dirigeants de la région, c'est un risque politique. Y compris pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui a 35 millions de Saoudiens.
De quel côté est l'Arabie Saoudite?
Alors, l'Arabie Saoudite est clairement engagée contre l'Iran aujourd'hui et ses forces de regrouper autour d'elle toutes les autres pétromonarchies. Mais elle est aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe parce que même si l'Arabie arrive à exporter une partie de son pétrole, puisque il y a un oléoduc qui va vers la mer Rouge, c'est ça, mais qui est soumis au bombardement des drones. Vous savez que la guerre des drones a tout changé. Regardez, si on fait un tout petit pas de côté, l'Ukraine aujourd'hui, qui est bombardé par les drones Shahid donnés à la Russie par l'Iran, aujourd'hui a établi non seulement des stratégies anti-drones qu'ils vendent très cher à tous les pays du Golfe qui avaient jusqu'alors des patriotes, des intercepteurs à 4 millions de dollars pour taper sur des drones qui les rataient une fois sur deux à 10 000 dollars, est aujourd'hui capable de fabriquer des drones qui ont cette nuit attaqué des ports russes dans la mer Baltique, des ports d'exportation pétrolière. Parce que l'augmentation des prix, c'est pas seulement le détroit d'Hormuz qui est bloqué, mais c'est aussi le fait que l'Ukraine est aujourd'hui capable d'empêcher les Russes d'exporter.
On a l'impression que tout est désormais, effectivement, comme interlié. Gilles Kepel, la question qui se pose aussi, c'est quelle reste l'influence du régime iranien? C'est-à-dire qu'on se dit, ça fait un mois, il y a eu quasiment toute la tête de la pyramide de la hiérarchie du régime islamique d'Iran, Russie a été décimée et pourtant l'Iran a effectivement cette capacité de résistance, de bombardement encore régulier à la fois sur les pays du Golfe et sur Israël. Comment ça tient? Est-ce que c'est un canard sans tête mais qui continue et qui peut continuer à marcher encore bien longtemps, ou est-ce qu'à un moment il va finir par s'effondrer?
Alors, on n'a aucune image qui arrive d'Iran, hein, et même c'est les gens qui nous parlent d'Iran sont contrôlés, les images qu'on voit de manifestations pro-régime, on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité du pays aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus aucune communication, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien, sauf ce que contrôlent les gardiens. On ne peut pas imaginer qu'avec la masse de choses qu'il y a été bon, des impacts sur l'Iran, les États-Unis ont annoncé plus de 30 000 frappes, je crois, donc que le pays puisse fonctionner éternellement comme ça. Je crois que c'est surtout une sorte de cristallisation dans cette économie de guerre le plus longtemps possible, quel que soit le sort de la population, avec surtout, et c'est là le miracle des drones, c'est la transformation de la guerre, c'est la guerre faite avec des armes du pauvre. On peut tirer des drones depuis un hangar.
Ça veut dire aussi que le temps joue pour l'Iran, au fond. Ils savent que Donald Trump, lui, à un moment, aura une population impatiente, aura un congrès impatient, et lui-même peut-être sera tout simplement impatient. Une question aussi sur l'influence iranienne dans les pays occidentaux, avec notamment cet attentat déjoué devant Bank of America et le risque élevé d'attentat. C'est ce que nous dit aussi le ministre de l'Intérieur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cet attentat déjoué était une sorte de provocation pour nous dire, on veut juste vous dire qu'on est là et qu'on est capable, à un moment ou à un autre, d'actionner ce qu'on voudra?
Alors, ça rappelle furieusement les attentats terroristes qui avaient été fomentés par le régime iranien dès le début des années 80 et début des années 90. On en parle avec, justement, Jean-François Ricard dans notre livre Antiterrorisme. Et c'est là, il y a, sans savoir exactement qui est derrière ce qui s'est passé à la Bank of America à Paris, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire, ce sont des empilements de contacts. On ne peut pas identifier le donneur d'ordre, mais ce sont généralement des délinquants originaires, en l'occurrence de Montreuil, pour un certain nombre d'entre eux, qui ont été payés pour commettre un attentat par des gens dont ils ne savent pas vraiment qui ils étaient, qui ont été payés en liquide, etc. Or ça, c'était le mode de fonctionnement que privilégiaient déjà les services iraniens.
Vous, qui êtes un des spécialistes aussi du terrorisme islamiste, on n'est pas du tout sur le même genre de mode opératoire. Est-ce qu'on a ici, sur le sol occidental, j'allais dire, des gens qui, comme pour les attentats d'il y a 10 ans, seraient prêts à mourir en martyr pour l'Iran? Non.
Alors, c'est en train de bouger, parce que on voit bien que d'abord, toute la solidarité avec Gaza, qu'on peut apprécier ou qu'on peut ne pas apprécier, je suis pas en train de porter un jugement de valeur, mais qui a beaucoup mobilisé les choses. Et on voit maintenant de plus en plus une solidarité avec l'Iran. Un sondage paru il y a 2 jours en Grande-Bretagne a montré que 39% des musulmans britanniques stood with Iran, c'était se tenait aux côtés...
Avec le régime iranien?
Non, avec l'Iran en général,
iranien.
Parce qu'on fait pas la différence. On considère que c'est l'Iran, peuple musulman, qui est injustement agressé par la puissance impérialiste et sioniste, si vous voulez, dans ce langage. Or ça, on voit bien que ce genre de choses est en train de prendre. Avec une guerre dont les objectifs sont pas clairs, avec un président américain qui dit tous les jours la vérité, mais dont on sait que c'est une vérité temporaire, fluctuante, et qui contredit ce qui vient d'être dit. Vous voyez,
voudrait dire que ce ne serait pas forcément seulement des attentats qui puissent être commandités, avec des donneurs d'ordre, avec effectivement des missions, de l'argent, mais qui pourraient en quelque sorte réveiller des volontés terroristes, presque, j'allais dire, depuis le sol occidental.
Écoutez, ça n'est pas impossible. En tout cas, c'est l'un des risques induits par la poursuite de la guerre et surtout par la confusion totale. Vous avez remarqué que le gouvernement français, les gouvernements européens ont été soucieux de se différencier, de dire ça n'est pas notre guerre, elle a été menée sur décision américaine et israélienne, en dehors de l'international, l'ONU n'est pas impliquée. Emmanuel Macron n'a pas voulu envoyer le porte-avions, bien lui en a pris, parce que dans Détroit d'Ormuz, il aurait été coulé sans doute très rapidement par des drones. Il faut le laisser très loin dans la mer. Mais néanmoins, dans la confusion générale qui est en train de se mettre dans l'esprit public international, tout aujourd'hui.
Il y a une sorte d'association. Merci Gilles Kepel d'avoir fait le point avec nous. Un mois de guerre, donc on entre dans le deuxième mois. Gilles Kepel, professeur émérite des universités. Je cite votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'est aux éditions Plon. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.